Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à la Russie. L'enquête du procureur indépendant Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016 n'a pas permis de lever totalement le doute, pas assez en tout cas pour faire condamner Donald Trump, ni pour collusion avec une puissance étrangère, ni pour obstruction à la justice de son pays pour des faits qu'il n'aurait pas commis. Les 448 pages du rapport n'en révèlent pas moins des relations dangereuses avec les Russes, coupables d'avoir piraté les courriels de la campagne de la candidate démocrate Hillary Clinton, dont la détestation à l'égard de Vladimir Poutine était de notoriété publique. La Russie toujours montrée du doigt dans l'actuelle campagne pour les élections européennes du 26 mai prochain, avec cette observation d'une recrudescence d'activités malveillantes de groupes russes ciblant plusieurs gouvernements européens en amont du scrutin à venir. Les activités observées se concentrant sur des États membres de l'OTAN, selon FireEye, spécialiste de la sécurité, réseau basé sur l'intelligence. De manière plus visible et avérée, en annexant la Crimée, mais en intervenant en Syrie, Moscou s'est propulsé ces dernières années sur le devant de la scène, bouleversant le système international et le rôle de la Russie sur l'échiquier mondial. Regard sur la trajectoire russe, la vision que la Russie a de l'étranger, la réalité de la place qu'elle tient sur la scène internationale et la façon dont elle est vue par le monde extérieur. Avec nos invités, Anne de Tinguy, professeure des universités émérite en histoire contemporaine à l'Institut national des langues et civilisations orientales, chercheur aux séries de Sciences Po, directeur de La Russie dans le monde qui vient de paraître aux éditions du CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Julien Necetti, chercheur à l'Institut français des relations internationales, spécialiste de la politique étrangère russe, tout particulièrement au Moyen-Orient, également spécialiste de l'Internet russe. Bonjour.
Bonjour.
Cette année 2019, au mois de novembre, marque le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS plusieurs mois plus tard. Également, bientôt 20 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir, l'annexion de la Crimée en 2014 et ses initiatives au Moyen-Orient avec l'intervention de Moscou en Syrie en 2015 ont propulsé la Russie sur le devant de la scène internationale. Moscou est aujourd'hui considéré comme un acteur majeur. Au milieu du mois d'avril, on a vu le leader nord-coréen se rendre à Vladivostok pour rencontrer Vladimir Poutine après l'échec des négociations avec Donald Trump. La Russie, Anne de Tinguy, acteur majeur, est-elle pour autant redevenue une puissance, comme l'affirme régulièrement Vladimir Poutine, et est-elle effectivement considérée comme telle dans le monde? C'est tout cela que vous avez cherché à savoir à travers ce livre, Anne de Tinguy.
Tout à fait. En fait, ce n'est pas un ouvrage qui porte seulement sur la politique étrangère de la Russie. C'est un ouvrage qui tente de mieux comprendre, de mieux cerner le rapport de la Russie au reste du monde, le rapport de la Russie avec le monde extérieur. Et c'est un rapport qui est extrêmement complexe. Et là, vous venez de souligner une des complexités parmi d'autres en disant que Vladimir Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis quelques 20 ans, parle de la puissance de la Russie et déclare qu'il veut que la Russie redevienne un des grands de ce monde. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que la réponse n'est pas immédiatement évidente. Alors, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 20 ans. À la fin de son quatrième mandat en 2024, il aura passé 24 ans au pouvoir. Et finalement, ce qui se pose aussi, c'est la question de son héritage. On parle souvent de Russie poutinienne, ce qui est un terme impropre, parce que la Russie est beaucoup plus que la Russie de M. Poutine. Ça, c'est tout à fait évident. En même temps, c'est un homme qui, par la longévité de son pouvoir, par le caractère d'un système politique qu'il a mis en place, qui marque la Russie de son empreinte très fortement. Et cet héritage, eh bien, en fait, il y a beaucoup de points qui restent en point d'interrogation. Quand il quittera le pouvoir, est-ce que la Russie sera une puissance? Je viens de le dire, la réponse n'est pas évidente. Est-ce que la Russie sera toujours un pays occidental tourné vers l'Europe, ou est-ce qu'au contraire, elle aura éventuellement basculé vers l'Asie-Pacifique? Est-ce que elle sera toujours, elle aura toujours un regard très marqué par l'histoire sur l'espace post-soviétique. Mmh. Ce sont des grandes questions sur lesquelles on s'interrogera. On s'interroge déjà, mais on s'interrogera
quand il quittera le pouvoir. Autant de questions, on y reviendra bien sûr. La Russie poutinienne, et vous le disiez de Tanguy, la Russie est beaucoup plus que poutinienne. Il y a une chose que j'ai relevée particulièrement intéressante, c'est d'abord ce constat que en Russie, le totalitarisme n'a pas fait l'objet d'un travail d'explication et de mémoire. Vous évoquez la réhabilitation rampante de Staline depuis les années 2000. Est-ce qu'il y a une explication à cela ?
L'explication de la réhabilitation rampante de Staline, elle se situe très largement dans la politique de M. Poutine et dans le narratif qu'il a à cet égard. Bien sûr, il condamne les purges staliniennes, mais en même temps, il insiste sur la grandeur de l'Union soviétique au moment de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire implicitement ou explicitement sur le rôle de leader que Staline a joué dans la victoire contre le nazisme. Et puis d'autre part, il insiste sur le fait que pendant la période stalinienne, l'Union soviétique s'est industrialisée et est devenue une puissance industrielle et dans une certaine mesure technologique. Et donc ça amène à relativiser le bilan humain de cette période stalinienne. Et en effet, c'est tout à fait étonnant puisque en dépit des millions de victimes des purges staliniennes, dans un des derniers sondages du centre Levada, 57% des personnes interrogées voient dans le successeur de Lénine un dirigeant sage, je cite, un dirigeant sage qui a mené l'Union soviétique à la puissance et à la prospérité. Et encore très récemment, un sondage Levada qui montre que 70% des Russes ont une vision positive de Staline, 19% seulement en ayant une vision négative, ce qui est tout à fait effrayant. Et donc, il est clair que ça, là, il y a là quelque chose qui marque la politique étrangère. Pour comprendre la politique étrangère d'un pays et le rapport au monde extérieur, il faut tenir compte du passé et de la gestion de ce passé.
Alors, pour ce qui est de la politique étrangère, il y a dans l'histoire récente deux grands événements, deux grandes dates. On va peut-être y passer quelques temps maintenant. La première date, mais c'est pas par elle qu'on va commencer, c'est 2014 avec l'annexion de la Crimée. Et je me tourne vers vous, Julien Nocetti, c'est 2015, le Moyen-Orient, l'intervention russe en Syrie. Alors, on dit que la Russie se façonne beaucoup par opposition à l'Occident. Cette intervention russe en Syrie, c'est un élément qui vient éclairer cela.
Alors bien sûr, en fait, l'intervention russe en Syrie à partir de septembre 2015 vient illustrer d'abord le retour de la Russie dans la région, Moyen-Orient, une région qui est très symbolique pour l'affirmation de la puissance, qu'elle soit russe ou occidentale. On se souvient des interventions passées des Américains et Européens dans les grands dossiers régionaux. Mais surtout, ça vient montrer le retour de la Russie sur le plan militaire. Mmh. Ce que Moscou cherchait à affirmer depuis des années, on pense en particulier à la Géorgie en 2008, à la brève guerre que Moscou a menée dans ce pays, où il y avait eu des défaillances qui avaient été clairement établies au sein des défenses armées russes. Et 7 ans après, en 2015, il y a un affichage qui est beaucoup plus important de cette puissance des armes, au fond, et qui est censé illustrer ce retour aussi du hard power russe. Et ça, c'est quelque chose qui, en très peu de temps, a su être mené. Et un des objectifs les plus fondamentaux de Poutine a été précisément de chercher à repositionner Moscou sur l'échiquier international par le biais du Moyen-Orient, qui est, selon les vues du Kremlin, une des régions dans lesquelles l'influence de l'Occident a été la plus néfaste. Donc il y a eu aussi tout un passé récent d'intervention occidentale. On pense à l'Irak en 2003, à la Libye en 2011, à partir de 2011, où, selon Moscou, les conséquences des interventions armées occidentales ont été extrêmement dommageables pour la stabilité de la région. Et c'est ce que aussi le régime de Poutine a cherché à freiner, si ce n'est vraiment arrêter et empêcher.
Alors finalement, est-ce qu'on peut dire, Julien Nocetti, sans vouloir donner des raccourcis à tout, mais que finalement, il y a une certaine vision opportuniste de la Russie sur la question moyen-orientale, avec cette brèche finalement dans laquelle elle s'est engouffrée à la lecture des résultats des États-Unis ?
Alors il y a un opportunisme qui est très, là aussi assez fondamental en fait dans le positionnement russe, surtout au Moyen-Orient d'ailleurs, où vous n'avez pas au fond à Moscou de vraie stratégie pour la région. Il n'y a pas de vraie vision politique, de vrai modèle politique à exporter, ce qui là aussi fait partie du discours russe, par opposition aux Américains qui eux chercheraient constamment à exporter leur propre modèle et leurs valeurs qui sous-tendent leur interventionnisme libéral. Et ça, si vous voulez, ça, cet opportunisme, cette façon de réagir en fonction des situations, a conduit Moscou à une forme d'agilité, je dirais, en fonction des situations locales et en fonction des faiblesses qui sont perçues des Occidentaux et des puissances locales, que ce soit la Turquie, l'Arabie Saoudite, voire Israël ou l'Iran même. Chacun de ces pays, d'ailleurs, ayant des relations tout à fait cordiales avec la Russie. Donc c'est au fond un jeu d'équilibriste très patient que la Russie a su construire avec chacun des grands acteurs de la région et qui fait que Moscou cherche depuis un certain temps déjà à nouer non pas des alliances mais des partenariats au fond très tactiques et qui seront censés in fine conférer à Moscou un avantage par rapport à ces pays et par rapport aux Occidentaux qui, selon Moscou, n'auraient pas su parler à tout le monde, entre guillemets.
Est-ce qu'on peut évaluer le degré d'influence de Moscou sur le régime syrien et peut-être au-delà? Et comment la Russie est-elle vue au Proche et Moyen-Orient?
Alors, Julien Nassetti. L'influence de la Russie sur le régime syrien est toujours très délicate à établir parce que vous avez des jeux d'appareils de part et d'autre qui sont très très opaques, hein, avec des processus là aussi dont on a très peu conscience quand on n'est pas insider, je dirais. Mais vous avez des relations historiques qui ont été nouées entre les deux régimes, syriens et russes, sur le plan du renseignement et de la défense, qui font que vous avez une relation très rodée sur ce plan. Après, pour ce qui est des relations entre les deux chefs d'État, Poutine et Bachar al-Assad, c'est extrêmement difficile de le dire avec précision. Après, vous avez quelques signaux qui ont pu apparaître depuis quelques années, où on se souvient, il y a quelques années, quand Bachar al-Assad a été convoqué au Kremlin par Vladimir Poutine, en présence de ses principaux lieutenants, Sergueï Lavrov, le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, on a quand même eu l'impression d'une forme de vassalité de Bachar al-Assad, et ce qui tendrait à démontrer que voilà, Bachar al-Assad n'est pas aussi libre de ses mouvements qu'il n'y paraît dans sa relation à Moscou. Même si là aussi, on pourrait nuancer ce propos en disant que de très longue date, le régime syrien, sous Bachar al-Assad, et aussi sous son père Hafez al-Assad, a été très habile pour aussi instrumentaliser ses propres relations avec la Russie, qu'elles soient poutiniennes ou soviétiques. Donc là aussi, vous avez de part et d'autre des jeux, des relations très complexes qui sont nouées, et c'est pour ça que c'est extrêmement délicat de dire le Kremlin contrôle Assad, et Assad peut tirer son épingle du jeu.
Le terme d'instrumentalisation, Julien Nocetti, revient dans l'article que vous avez écrit dans l'ouvrage donc la Russie dans le monde. La Russie instrumentalisée au Moyen-Orient, c'est-à-dire que finalement quand les uns n'obtiennent pas ce qu'ils veulent des États-Unis, ils se tournent vers la Russie pour faire finalement une sorte de pression, en tout cas force de levier pour faire réagir Washington. C'est un élément très prégnant de la réalité moyen-orientale dans sa relation avec la Russie.
Ah, tout à fait, donc de pression, même de marchandage, je dirais. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît de façon très claire dans le cas de l'Arabie Saoudite et d'Israël. Dans le cas de l'Arabie Saoudite, vous avez historiquement des relations assez exécrables entre Moscou et Riyad, qui se sont améliorées à la faveur des événements internationaux et surtout à la faveur de la montée de l'anti-américanisme au Moyen-Orient. Et en réaction, Riyad a cherché à se tourner davantage vers Moscou pour aussi montrer à Washington que voilà, les Saoudiens sont capables de se tourner vers d'autres acteurs pour obtenir ce qu'ils veulent. Des contrats d'armement, des partenariats énergétiques, une forme de soutien diplomatique dans le conflit israélo-palestinien, sur la Syrie ou que sais-je. Donc c'est quelque chose qui là apparaît constamment dans les relations entre Moscou et Riyad depuis quasiment 15 ans d'ailleurs. Depuis la guerre en Irak en 2003. Et dans le cas d'Israël, cette forme de marchandage permanent est surtout apparue dans les relations triangulaires entre Moscou, l'Iran et Israël. Israël et l'Iran étant, évidemment, comme on le sait tous, ennemis sur la scène régionale. Et Moscou apparaît comme étant l'acteur équidistant qui peut jongler entre les deux au prix, là aussi, de marchandage permanent avec Israël.
Alors, on a évoqué, Anne de Tinguy, la question de l'intervention russe en Syrie comme élément majeur. Ça s'est produit en 2015. Un an auparavant, c'était l'annexion de la Crimée. Cette annexion de la Crimée par Moscou a marqué une sorte de rupture dans la politique étrangère de la Russie.
Indéniablement. dans la politique étrangère de la Russie, mais aussi dans les relations entre la Russie et l'Ukraine, d'abord, c'est-à-dire en définitive dans les équilibres et les déséquilibres qui existent au sein de l'espace post-soviétique, et puis d'autre part dans les relations entre la Russie et les pays occidentaux. C'est un moment très fort. Alors il y a des débats sur l'annexion de la Crimée. Les Russes ne parlent pas d'annexion de la Crimée, mais de rattachement qu'ils justifient, moi j'estime à tort, mais eux estiment à raison par des raisons historiques. Même dans les pays occidentaux, tout le monde ne fait pas la même lecture. Il n'en reste pas moins que tous les pays de l'Union européenne, tous les pays occidentaux ont condamné cette annexion de la Crimée et pris des sanctions à l'encontre de la Russie qui ont des effets divers, qui sont à la fois politiques, économiques et technologiques et qui marquent fortement la relation entre la Russie et les pays occidentaux.
Alors depuis les dernières élections en Ukraine, on voit la Russie distribuer des passeports aux habitants du Donbass. D'aucuns prédisent qu'en annexant la Crimée, la Russie a perdu l'Ukraine pour des générations. Est-ce que vous partagez, Anne de Tinguy ?
Moi, j'ai appris à être prudente et à parler de façon définitive. On risque de se tromper, de rupture pour des générations, je ne sais pas. Mais en tout cas, une rupture profonde, ça c'est absolument certain. Et la question de l'Ukraine est une question qui est tout à fait essentielle. L'Ukraine est l'échec majeur, retentissant de la politique étrangère de la Russie, déjà depuis le début des années 90. Et c'est un cas qui est très particulier parce que l'Ukraine et la Russie sont deux pays qui ont des liens historiques très étroits entre les populations, qui ont des cultures qui sont très proches des populations qui sont étroitement mêlées. Il y a beaucoup de mariages mixtes. Bref, des liens très étroits. Et malgré cela, les Russes n'ont rien compris aux mentalités ukrainiennes. Et je dirais que depuis quelques 20 ans, on en est toujours au même point. Ils ne comprennent pas comment réagissent à leur égard, comment pensent les Ukrainiens, et avec des conséquences internationales qui sont extrêmement élevées. Alors, la rupture aujourd'hui, elle est patente dans tous les domaines. D'abord, sur le plan stratégique, du fait de l'annexion de la Crimée d'une part, et d'autre part, sur le conflit du Donbass, conflit qui, je le rappelle, est dans une impasse absolument totale, malgré les accords de Minsk 2 en 2015, qui n'ont permis aucune sortie du conflit. Et bon, au moment des élections en Ukraine, il est apparu très clairement que une grande partie des Ukrainiens étaient lassés de ce conflit et que Monsieur Zelensky a dit qu'il voulait sortir de ce conflit. Mais après, comment on fait pour sortir de ce conflit? Personne n'a l'air de le savoir. Et les Russes ne proposent pas non plus de solution, ils ne proposent pas non plus de se retirer du Donbass. Alors, cette initiative qui a été prise par Monsieur Poutine 2 jours après la victoire de Monsieur Zelensky aux élections présidentielles en Ukraine, de donner aux Ukrainiens du Donbass, c'est-à-dire de la partie occupée du Donbass, les deux République séparatiste de Donetsk et de Lugansk, le bénéfice de la procédure simplifiée pour accéder à la citoyenneté ukrainienne. Et puis, 3 jours après, mesure qui a été étendue par décret de M. Poutine à d'autres Ukrainiens, tous ceux qui se sont réfugiés ou qui ont des permis de séjour temporaires en Russie. Et puis, une déclaration de M. Poutine disant que peut-être, après tout, il pourrait étendre encore à d'autres Ukrainiens d'Ukraine. C'est une déclaration qui, en fait, apparaît comme une façon de faire pression sur l'Ukraine, probablement comme une volonté de tester le nouveau président et de voir comment il va réagir. Et là aussi, ce phénomène Zelensky est un phénomène qui est une inconnue pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'Ukrainiens qui l'ont élu, mais malgré tout, on ne sait pas grand-chose de lui.
Personnalité issue du show business, et vous le dites dans l'ouvrage Anne de Tanguy. Alors, c'est tout à fait étonnant quand vous évoquez l'idée que les Russes ne comprennent pas bien les réactions des Ukrainiens. Et les Russes sont pourtant ceux qui se sentent le plus proches de l'Ukraine. Alors, physiquement, mais on pensait aussi qu'intellectuellement. Et l'Ukraine qui est désormais au deuxième rang des pays considérés comme inamicaux, hostiles à l'égard de la Russie, immédiatement derrière les États-Unis. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Anne de Tanguy et Julien Nocetti, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Russie. Nous retrouvons nos invités, Anne de Tanguy, professeure des universités émérite en histoire contemporaine à l'Institut national des langues et civilisations orientales, chercheur aux séries de Sciences Po et directeur de La Russie dans le monde, qui vient de paraître aux éditions du CNRS, et Julien Nocetti, chercheur à l'Institut français de relations internationales, spécialiste de la politique étrangère russe, tout particulièrement au Moyen-Orient, et également spécialiste de l'Internet russe. Nous avons évoqué dans la première partie de l'émission ces deux événements majeur de la politique étrangère russe, d'une part en 2014 l'annexion de la Crimée et en 2015 l'intervention de Moscou en Syrie. Anne de Tanguy, vous souhaitiez réagir à ce qu'évoquait sur le Moyen-Orient, la politique de la Russie au Moyen-Orient, l'idée que Moscou n'avait finalement pas d'alliance mais plutôt des partenariats. La Russie n'a pas d'alliés.
Mais non, la Russie n'a pas d'alliés et finalement, elle ne semble pas chercher à en avoir. Et ça, c'est une des caractéristiques de la politique russe au Moyen-Orient qui vient d'être soulignée par Julien Nocetti et qui est à la fois aussi intéressante qu'importante. Alors, la Russie n'a pas d'alliés. Elle a des alliés dans l'espace post-soviétique. Elle définit comme étant un allié un pays comme le Biélorussie ou alors comme l'Arménie, deux pays qui sont d'ailleurs très différents l'un des autres. Mais d'autre part, elle appartient à des alliances comme la Communauté des États indépendants qui existe toujours, ou alors l'Union eurasienne, ou alors l'Organisation du traité de sécurité collective. D'autre part, elle appartient aussi, elle est un des membres fondateurs avec la Chine, de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais elle n'a aucune alliance du type de celle de l'Alliance atlantique, par exemple. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'elle a des partenaires, elle a des grands partenaires. Bon, on l'a vu au Moyen-Orient. En Asie-Pacifique, elle a ce grand partenariat avec la Chine. C'est un partenariat très important. Mais la Chine est un partenaire, ça n'est pas un allié. Et l'Union européenne est aussi un grand partenaire de la Russie. Je rappellerai
premier
que...
Premier partenaire commercial
bien sûr,
économique.
40% de son commerce extérieur se fait avec l'Union européenne. Donc, c'est un partenaire tout à fait considérable. Et les liens entre les Russes et l'Union européenne sont très étroits, les mouvements de personnes, les bon, toutes sortes de liens qui sont nourris. Mais l'Union européenne n'est en aucune mesure un allié de la Russie. On a donc là une caractéristique de la relation extérieure de la Russie qui est tout à fait étonnante et qui amène à se poser une question. Est-ce que M. Poutine veut avoir une Russie influente, puissante dans la vie internationale? Est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, on peut avoir cette puissance, cette influence, sans avoir de véritables alliés? Je ne réponds ni oui ni non, mais je pose la question qui me semble mériter d'être posée.
Alors, on va parler de la Chine, bien sûr, dans quelques instants. On commence d'abord par le rapport aux États-Unis. Les États-Unis, qui, je le disais à la fin de la première partie de l'émission, arrivent en tête des pays considérés comme inamicaux, hostiles à la Russie, selon 78% des Russes interrogés en mai 2018. Dans le top 10 de ces pays viennent ensuite, alors, il y a l'Ukraine, la Grande-Bretagne, la Pologne, les Pays Baltes, l'Allemagne et la France. 80% de ceux interrogés en août 2018 toujours déclarent considérer l'OTAN comme une menace pour la Russie. Alors vous parliez du pacte de Varsovie qui n'existe plus. L'OTAN a été maintenu. Et en même temps, les Russes qui se prononcent en faveur du renforcement des relations avec l'Occident. J'ai cette question à propos des États-Unis. Pourquoi une telle dégradation 30 ans après la fin de la guerre froide, Julien Nocetti?
Alors, c'est une dégradation qui s'est accélérée depuis le second mandat de Barack Obama, en fait. Un second mandat qui est venu juste après une courte phase d'amélioration. Parce qu'on se souvient du redémarrage des relations russo-américaines qui avait été entamé sous la présidence de Dmitri Medvedev. Et quand Poutine est revenu au Kremlin à partir de mai 2012, on a vraiment assisté à une dégradation lente mais certaine des relations entre Moscou et Washington et qui s'est concrétisée avec la Crimée puis le Donbass à partir de mars 2014 et par la suite de la Syrie et des autres grands dossiers du Moyen-Orient en particulier. Tout cela est venu se greffer au contexte des sanctions internationales dont on n'a pas encore parlé mais qui sont un des irritants majeurs entre l'Occident en général et la Russie et qui explique aussi cette forme d'activisme diplomatique dont on parlait de la Russie au début de l'émission, une diplomatie tous azimuts qui peut aussi s'interpréter au prisme de besoin de Moscou d'aller au-delà de partenaires classiques pour aussi trouver des débouchés commerciaux et atténuer l'effet des sanctions qui est important pour l'économie russe, malgré tout un discours officiel sur une autosuffisance, que sais-je, agricole, technologique ou dans d'autres domaines. Mais tout cela pour dire que l'effet des sanctions pèse lourdement quand même sur l'état du pays.
Alors, je vous passe la parole à De Tinguy avec cette question. Est-ce que les Russes ne parviennent pas à changer de logiciel et ne voient que rivalité et concurrence là où il pourrait y avoir coopération, ou ce sont finalement les événements de ces dernières années qui montrent vraiment aux Russes que l'adversité est partout?
Alors, il y a plusieurs points dans ce que vous venez d'évoquer, dans ce que vient d'évoquer Julien. La situation des relations entre la Russie et les pays occidentaux, notamment les États-Unis, mais pas seulement, est une situation extrêmement complexe parce que finalement, on est dans une espèce de spirale de la dégradation des relations et une spirale de la méfiance et de l'absence totale de confiance qui ne fait que augmenter au fil du temps, en particulier depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Les États-Unis, c'est quand même un cas très particulier parce que dans cet ouvrage, on accorde beaucoup les uns et les autres d'importance au regard porté par la Russie sur le monde extérieur. Et force est de constater que la Russie a un discours extrêmement critique à l'égard des États-Unis, de l'unipolarité, de l'unilatéralisme, des désordres et des déséquilibres créés, dit Monsieur Poutine, par les États-Unis dans le monde. Et en même temps, en disant que l'Occident est sur le déclin, qu'il y a une décadence morale occidentale qui ne fait que s'accélérer. Et en même temps, les États-Unis restent la grande référence. C'est-à-dire que si vous regardez les discours de Monsieur Poutine, les États-Unis sont toujours au cœur du narratif concernant la relation extérieure. Et ces États-Unis, à la fois, exercent une formidable fascination sur les Russes, mais depuis très très longtemps, c'était déjà comme ça du temps de l'Union soviétique, et ça a perduré après 1991. Et en même temps, toutes les déceptions qui ont été enregistrées par les Russes sur le plan interne comme sur le plan externe, les États-Unis en portent en quelque sorte à leurs yeux la responsabilité. Du coup, ça s'est transformé en un anti-américanisme, en une sorte d'aversion pour les États-Unis. Ces sentiments ressortent dans le sondage que vous avez cité tout à l'heure. Et on est en effet, à l'heure actuelle, dans une situation qui est très très compliquée, parce qu'aux États-Unis aussi, il y a un regard qui est extrêmement critique, qui est porté sur la Russie, et que bien sûr l'ingérence supposée de la Russie dans les élections présidentielles de 2016 n'a fait qu'accentuer.
Alors, cette ingérence russe dans l'élection américaine, et on l'évoque dans la campagne pour les élections européennes, Julien Nocetti, c'est ces technologies, un moyen d'utilisation pour Moscou de la puissance russe.
Bien sûr, au fond, si vous voulez, la chose numérique est venue renforcer l'appareil de la puissance russe, au fond. Et ça, c'est quelque chose qu'en fait, les dirigeants russes ont bien compris il y a déjà de nombreuses années, que l'Internet, au fond, était à la fois une force au service des intérêts de politique étrangère des Américains, changement de régime, etc., que ça peut faciliter les mouvements de contestation et coaliser les forces en présence. Mais en même temps, c'est aussi une faiblesse de cette politique étrangère américaine. C'est-à-dire que, via les réseaux sociaux, via les applications de messagerie instantanée, etc., vous avez une perméabilité des opinions publiques face à des discours qui sont martelés, amplifiés, détournés, etc. Et ça, Moscou a su pleinement jouer sur cette vulnérabilité majeure des sociétés occidentales, qui bien sûr a été facilitée par le fait que dans un certain nombre de pays occidentaux, États-Unis en tête, vous avez une insatisfaction des sociétés vis-à-vis des pouvoirs en place, vis-à-vis de leur situation économique, et qui n'a fait que faciliter la pénétration des discours qui ont été diffusés par différents acteurs en lien avec le gouvernement russe. Bon, voilà. Et ça, c'est que c'est quelque chose qui a su être vraiment pleinement maîtrisé par les Russes, sachant qu'on a parfois eu tendance à mélanger ces deux dimensions au départ, dans le cas de l'interférence supposée aux États-Unis, mais vous avez un couplage entre la dimension technique, donc des actions cyber, des cyberattaques perpétrées contre les réseaux, et des actions informationnelles, c'est-à-dire le volet psychologique, au fond, l'influence via des actions de subversion, de propagande, de désinformation. Et ça, cette vision assez globale a été d'abord maîtrisée par les Russes, et on a vu le résultat dans les différentes séquences électorales aux États-Unis ou en France, avec moins de succès évidemment, et dans d'autres scrutins européens ou d'autres situations, par exemple de manifestations dans différents pays européens. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui maîtrisé par la Russie, et sur ce plan numérique, la Russie est un peu aujourd'hui le pays qui fait peur dans ce domaine.
On va pas y passer plus de temps, sauf si vous avez quelque chose absolument important à rajouter, Anne de Tinguy. On va parler de la Chine, si vous le voulez bien, avec ce rééquilibrage finalement vers l'Asie. On a vu en 2008 la Chine arriver au deuxième rang des pays considérés comme les plus proches amis et les alliés de la Russie. La question qui peut se poser est de savoir finalement quels facteurs rapprochent les deux pays, des préoccupations sécuritaires, des visées géopolitiques convergentes, et puis finalement aussi accentuation de l'ancrage de la Russie à l'Asie depuis la Crimée, donc depuis 2014, et tout cela ne fait que se confirmer année après année.
Alors, le partenariat entre la Russie et la Chine est très ancien. Il ne remonte pas à 2014. Il s'est accentué en quelque sorte en 2014, ou du moins la Russie a souhaité chercher à l'accentuer depuis 2014. Mais il remonte en définitive à 1989, qui est l'année de la grande réconciliation entre Moscou et Pékin. Moscou, c'est toujours l'Union soviétique à ce moment-là. Et à partir des années 90, ce partenariat s'est développé dans différents domaines. Ça a commencé finalement dans le domaine politique, mais aussi dans le domaine des ventes d'armes, parce que la Russie avait pléthore d'usines qui fonctionnaient à plein régime et dont elle ne savait pas quoi faire de la production d'armes qui était faite dans ces usines. Et puis d'autre part, dans le domaine économique, bref, il y a un partenariat qui peu à peu s'est construit, qui est devenu officiellement stratégique en 1996, et que M. Poutine décrit souvent, très volontiers, comme un partenariat de confiance et d'égal à égal, avec une relation qui est très chaleureuse. Et quand on écoute la traduction des discours de M. Xi Jinping, eh bien, on voit que la Russie est un partenaire qui est apprécié à Pékin. Alors, qu'est-ce qui les rapproche? Eh bien, je dirais que il y a dans les deux pays un certain ressentiment historique à l'égard du monde extérieur et du rôle du monde extérieur. D'autre part, si l'on en croit le narratif des uns et des autres, il y a une commune vision du monde qui se traduit par le fait que, par exemple, au Conseil de sécurité, dont les deux pays sont tous les deux des membres permanents, ils votent très souvent de concert, ils s'entraident l'un l'autre. Les vétos sur la Syrie de la Russie sont très souvent soutenus par la Chine.
Très souvent, mais pas toujours.
Mais pas toujours, voilà. Et donc, on a une relation qui est étroite. Est-ce qu'il faut pour autant en conclure un rééquilibrage de la Russie vers l'Asie-Pacifique, rééquilibrage au détriment de l'Europe et des États-Unis, et même, comme certains le font, notamment certains Russes, vers un basculement de la Russie vers l'Asie-Pacifique? Là, je crois qu'il faut être très, très prudent et que parler de basculement, en tout cas, ne convient pas, pour des raisons qui sont d'abord économiques et démographiques. Le centre de gravité de la Russie reste européen. Dans de nombreux domaines, les relations, les liens sont à la fois au niveau étatique et non étatique, sont très développés avec l'Europe, plus qu'ils ne le sont avec la Chine. Et puis d'autre part, il y a un élément qui est tout à fait fondamental, c'est que je parlais tout à l'heure d'une relation d'égal à égal. Alors peut-être sur le plan diplomatique, c'est ce que pense M. Poutine, mais dans la réalité économique, ça n'est plus du tout le cas. là, on a deux pays qui sont dans des situations extrêmement différentes. Le produit intérieur brut de la Chine aujourd'hui, c'est 8 fois et demi
supérieur à celui de la Russie, oui. Alors que les deux économies étaient à peu près au même niveau en termes de PIB au moment de l'effondrement de l'URSS en 1991.
Voilà.
C'est dire le chemin parcouru par la Chine, par rapport à la Russie. La Russie qui aujourd'hui se situe seulement au 12e rang des économies dans le monde. La Russie est-elle un acteur bien préparé à affronter les défis du 21e siècle ? Julien Lucetti.
Un très très bref complément sur la relation à la Chine. Je pense que chez les dirigeants russes, il y a quand même la conscience de l'asymétrie croissante entre Moscou et Pékin précisément.
Asymétrie, A2SY, oui.
Voilà, asymétrie croissante. Et du fait que au XXIe siècle, les relations internationales vont être façonnées et le sont déjà par la relation entre Washington et Pékin. Et tout l'enjeu pour Moscou sera de se raccrocher au wagon de cette relation bilatérale sino-américaine et de ne pas accuser trop de retard, surtout au plan technologique. Encore une fois, j'y reviens, mais cette dimension technologique de relations internationales manque aujourd'hui à Moscou et il y a aujourd'hui un retard quand même très très profond vis-à-vis de l'avance prise par la Chine et les États-Unis.
C'est ce qui fait aussi que Moscou intéresse jusqu'à un certain point. Alors, intervention, vente d'armes, mais dès lors qu'il s'agit de faire appel à la Russie comme géant technologique et économique, là, les choses se recadrent d'une certaine manière, Julien.
Dès qu'on dépasse la stricte dimension du hard power russe, encore que ça pourrait être nuancé, parce que vous avez, dans le cas de la Syrie, vous avez toute une dimension de tests, de nouveaux armements, de nouveaux systèmes d'armement aussi sophistiqués. Donc on pourrait relativiser. Mais dès qu'on dépasse cette seule dimension, la puissance des armes, c'est vrai qu'on a, on a encore peine à trouver dans la Russie à la fois un modèle d'attractivité pour un soft power et aussi en matière d'innovation, tout simplement, qui aujourd'hui sont quand même deux domaines qui façonnent de plus en plus les relations internationales.
Anne de Tinguy, on évoquait le rapprochement russo-chinois. Il y a un vrai décalage entre l'image que la Russie veut donner et la façon dont elle est considérée, je pense, à l'Occident, avec Russes et Occidentaux qui sont finalement englués dans une spirale d'incompréhension et de méfiance. La Russie n'est pas convaincue de son identité européenne.
Alors, depuis des siècles, et notamment depuis le 19e, il y a des débats en Russie sur la question de savoir si elle est un pays européen ou un pays eurasiatique. Et justement, la géographie, là, et l'histoire ont un rôle qui est très important. La Russie, le fait que la Russie est un immense territoire qui soit à cheval sur l'Europe et l'Asie est un paramètre qui compte et qui a un impact à la fois sur les mentalités et sur la politique étrangère de la Russie, indéniablement.
Julien Lucetti, un commentaire sur cette question peut-être de l'identité européenne de la Russie ?
Je dirais, enfin, c'est un peu un lieu commun, mais c'est une ambivalence qui n'a jamais été tranchée jusque-là. Et le fait qu'aujourd'hui, que depuis 2014, il y a un discours officiel russe qui se veut plus plus tourné vers l'Orient et vers la Chine en particulier, montre bien qu'il y a aussi une forme d'impasse aussi dans les stratégies politiques étrangères de la Russie, et que je ne suis pas certain que ce rapprochement annoncé en cours avec l'Extrême-Orient se fasse à l'avantage, au seul avantage de la Russie. Donc c'est quelque chose que je pense les dirigeants russes verront assez bien, à plus forte raison dans les dernières années du mandat de Poutine, où il faudra trouver encore une fois un successeur, et on verra bien que différents agendas de politique étrangère se entreront en collision, et que je ne suis pas sûr que la relation avec la Chine soit peut-être la plus prioritaire.
Alors, il y a aussi un élément, et ça servira de conclusion, important qui est mentionné dans le livre, c'est la difficulté de la Russie, Anne de Tinguy, à se renouveler.
Alors, ça, c'est exactement le point que vous évoquiez tout à l'heure et qu'on voit très bien dans le domaine à la fois de l'économie, c'est un chapitre qui est fait par Julien Vercueil, et d'autre part, dans le domaine de la culture, là, il y a là un chapitre très intéressant qui est rédigé par Olga Bielova. L'un et l'autre montrent très bien cette très grande difficulté de la Russie à se renouveler alors que la Russie a des moyens qu'elle pourrait tout à fait exploiter pour devenir une puissance économique et une puissance culturelle. Dans le domaine économique, la Russie reste une économie de rente qui est impuissante à se protéger des chocs extérieurs. Il y a tout un discours de M. Poutine sur la volonté de garantir ce qu'il appelle la souveraineté économique du pays, mais en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la Russie est impuissante à se protéger des chocs extérieurs. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi dans le domaine économique, eh bien, c'est que la Russie ne joue un rôle moteur finalement dans aucune région du monde. Elle n'est une locomotive dans aucune région du monde. Et dans le domaine culturel, qui est le domaine par excellence où la Russie a eu un fantastique rayonnement, alors là, on voit bien une incapacité à se renouveler.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Anne de Tinguy, je rappelle que vous êtes professeur des universités émérite en histoire contemporaine à l'Institut national des langues et civilisations orientales, chercheur aux séries de Sciences Po et directeur donc de La Russie dans le monde, ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS, et Julien Nocietti, chercheur à l'Institut français de relations internationales, spécialiste de la politique étrangère russe et tout particulièrement au Moyen-Orient, également spécialiste de l'Internet. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain. We'll be right back.